de la fiscalité pour optimiser ça, puis c'est normal, c'était leur vie. Maintenant, ils sont fâchés parce que, crime, ils n'auront plus les mêmes avantages fiscaux qu'avant. C'est un drôle de segment de la population qui sort. T'sais, c'est comme dire, hey, nous qui faisons entre 500 000 et 1 million, on trouve qu'on n'a plus le ink qu'on avait. C'est ça qu'ils disent.
OK, mais il peut avoir un effet collatéral,
oui,
non envisagé qui pourrait être pas bon pour la collectivité.
Tout à fait. Au Canada, on subventionne l'école de nos médecins. Ils pourraient prendre leur clic puis leur claque puis aller aux States, comme dirait l'autre.
Mm-hmm.
Ou ils pourraient aussi, et il y en a qui le vivent présentement, Patrick, des médecins du Québec et d'ailleurs qui commencent à changer leur pratique. Qui disaient, sais-tu quoi? On va aller shooter du monde à la place de faire de la médecine.
Faire du Botox.
Ben, du Botox ou des soins médico-esthétiques ou partir d'une clinique privée puis arrêter d'avoir le stress du secteur public. Donc, il y a des médecins qui déménagent aussi de région pour avoir une vie plus simple. Tu as des médecins du Québec qui s'en vont dans l'Est canadien pour avoir certaines conditions de travail plus avantageuses puis profiter de certaines affaires. Donc là, c'est tous les médecins du Canada qui lèvent leurs mains. Là, c'est les médecins, l'Association médicale du Canada, canadienne. Donc là, c'est pan-canadien, hein, d'un océan à l'autre. Mais c'est sûr qu'il y a des effets pervers. Mais ce qui me fatigue, c'est de dire une pression financière supplémentaire. Je vais les amener dans la vie du commun des mortels, m'a leur montré c'est quoi de la pression financière. T'sais, quand tu fais entre 5 puis 100 000 puis 1 million par année, c'est sûr que tu payes 300-400 000 d'impôts, là, même 500 000 parfois. Mais au bout du compte, t'as quand même une coupe de 100 000 à l'abri. Là.
Je te dis, il n'y a personne qui va se battre dans les autobus pour cette mesure.
Il n'y aura pas de manifestation de carré rouge de médecins canadiens.
Je pense pas. OK, parle-moi des îles, oui, de la Madeleine, parce que les îles, c'est un bel archipel. Oui. C'est aussi une municipalité. Puis la municipalité a décrété que entre mai et octobre, si tu veux aller aux îles, ça te coûte 30$.
T'as fait un article là-dessus et oui, ça m'a interpellé parce que c'est philosophique un peu, hein. Je me disais, si les îles étaient à côté de Valleyfield, en terre natale, mm-hmm, mm-hmm, personne dirait, hey, si vous entrez à Valleyfield, c'est 30$. Tu comprends? Ça arriverait pas. Impossible. Il n'y aura pas un poste de péage. Maintenant, comme c'est une archipel, est-ce qu'on est en train de dire que l'été, les îles de la Madeleine, c'est comme Tremblant? Il y a une taxe de consommation, mais qui est à l'entrée. Que tu achètes ou non de la restauration.
C'est ce qu'ils disent.
C'est ça. C'est comme une taxe de douane, comme si c'était un micro-pays. Mm-hmm. Puis, écoute, ça se défend si tu considères un peu que c'est un site de villégiature qui doit être compensé par le fait que la gestion locale est complexe.
Mais Pierre-Yves, tu sais, c'est ce que j'expliquais dans le papier. Je veux pas être méchant, mais d'abord, le tourisme apporte beaucoup d'argent.
Oui.
Il pourrait faire une ponction là-dessus avec une taxe sur les, oui, nuitées, qu'importe. Puis l'autre affaire, moi, je veux pas commencer à compter comme Québécois. Je veux pas commencer à dire, moi, là, est-ce que les gens de l'Abitibi contribuent au trésor public comme nous autres à Montréal, on y contribue? C'est un jeu de compte, tu vas jamais gagner. Mais si le maire des îles veut commencer à jouer à ça, il va trouver que la comptabilité, ça peut être brutal.
En même temps, à sa défense, tu sais, il peut pas, lui, monter son activité économique de la même façon que la Chine peut le faire, ou Longueuil, ou Montréal, parce que il y a une avenue limitée. Tu sais, il faut y aller par bateau, par avion. Il y a un nombre limité d'activités. Le tourisme, c'est ce qui fait vivre ton île. Il y a un peu d'activités parallèles, mais c'est ça. Tu sais,
okay, regarde, je comprends cette réalité-là. C'est pas facile.
Non.
Je te souligne encore une fois qu'il y a beaucoup de touristes qui laissent beaucoup de millions là-bas. Tu peux ponctionner là-dessus. Ça, c'est la première affaire. Y a-t-il un autre territoire au Québec où je dois payer à l'entrée de la municipalité pour le privilège d'y accéder?
Non, t'as raison. Mais tu sais, c'est un peu comme l'île de l'entrée, là. Tu sais, c'est des places qui sont tellement, comme dans leur monde, isolées, qu'ils ont des besoins d'une réalité économique peut-être différente. Je te donne l'exemple de Tremblant, où est-ce qu'on va chercher des redevances de 3% à 3,5%, plus les taxes sur les taxes, pour dire, vous venez à Tremblant, on fait vivre le microcosme, on a inventé une taxe. Alors peut-être que, aux îles de la Madeleine, on pourrait dire, ben, ton billet d'avion et ton billet de bateau, peut-être qu'il pourra une taxe là-dessus impliquée dans le prix, puis toi, tu n'aurais même pas besoin de t'en rendre compte, tu le paierais.
Ton billet d'avion là, qui est plafonné par subvention à 500$.
Aussi, ben imagine, tu prends un petit 500$, mais là, le billet d'avion à 500$, ça sera pas infini.
Mais
tu as raison que ça a été aidé, oui. L'autre affaire, c'est la bouteille de vin. Hein. Si tu achètes une bouteille de vin, peu importe, tu es au Québec, c'est le même prix, peu importe le prix que ça amène. Mais je dois leur avouer, qu'est-ce que tu ferais, Patrick? Mettons que c'était toi le maire demain, là, des îles de la Madeleine. Puis là, le gouvernement t'aide comme il peut, mais maximise son aide, tes citoyens peuvent être taxés d'une certaine façon. Tes touristes, c'est variable. Mais tu dis, j'ai besoin de X dollars pour garocher la poubelle l'autre bord du fleuve, bord de l'océan.
Je vais faire du judo avec ta question. Oui. Sont où les affaires municipales? Parce que c'est pas vrai qu'un maire peut décider que les Québécois vont payer pour accéder à un territoire municipal québécois. Le maire des îles a le droit de l'essayer. C'est parfait. C'est une bonne guerre. La classe politique est où là-dessus? Puis, Pierre-Yves, si les îles peuvent faire ça, toi, tu habites à Montréal... ça te tente-tu vraiment de payer pour les nids de poules causés par les gens de Laval?
La question...
Quand on commence à faire ce calcul-là, je te le dis, c'est une pente glissante.
Oui, mais après ça, tu peux te dire aussi, effectivement, si tu mettais un péage sur tous les ponts de Montréal, disons ça de même, pour financer la ponction sur l'usure de la ville que les banlieues font, c'est sûr que ça crierait.
Là, ça crierait.
Ça crierait très fort.
Oui.
En même temps, quand tu vas aux îles de la Madeleine, que ton billet d'avion te coûte une coupe de sang, si j'ajoutais 30$ sans te le dire, tu ferais même pas une chronique puis tu l'aurais payé quand même.
Oui, exact.
Alors, dans le fond, le mieux, c'est de la cacher, la taxe, si tu veux faire ça.
Le principe des Québécois qui peuvent aller partout au Québec sans payer un droit d'entrée à ville, il serait sain et sauf.
Tu vois, moi, je dirais, si tu viens à Valleyfield comme touriste, puis tu viens pas de Valleyfield, on te donne une grillade, tu ne dois plus repartir.
Si je vais aux îles après cette chronique-là, penses-tu que je dors dans mon char?
Tu peux dormir dans ton auto, mais barre tes portes.
Salut, Pierre.
Le Salut.
Salut, c'est Nicolas Prévost. Ça me fait plaisir de vous retrouver samedi dimanche pour la seule émission dédiée à cette industrie musicale dominante au Québec maintenant. Et je vais vous faire jouer les plus grands succès de la musique country. Écoutez Le Saloon.
Le Saloon.
Tous les samedis et dimanches.
Avec Nicolas Prévost.
Selon l'équipe de Sensation Plus, pour une soirée parfaite, ça prend de la lingerie coquine, de l'huile à massage, des jouets et beaucoup de... Sensation Plus. Livraison rapide et discrète. Sensationplus.com. Partagez le plaisir.
Envie de découvrir ou de redécouvrir les produits et services de vos entreprises coup de cœur? C'est au Salon des exposants Radio VIP que ça se passe. Avec une trentaine d'entreprises, animations, prix de présence et entrée gratuite. Le 27 avril de 10h à 16h à la salle Louis-Philippe-Anctil de Luzville.
À Rimouski, c'est CFIX FM 93.
Nouveau nouvelle du 23 avril 2024. Le maire Guy Caron se fait rassurant concernant l'implantation de la multinationale Costco à Rimouski. L'entreprise et la ville doivent passer chez le notaire cette semaine afin de conclure la vente du terrain promis à Costco, situé à l'angle du prolongement du boulevard, puis de la montée industrielle. La transaction est évaluée à un peu plus de 3,4 millions de dollars. Par ailleurs, la ville doit investir 4,9 millions de dollars pour des travaux d'élargissement de la montée industrielle et pour le prolongement du boulevard Turbuis. Quoi qu'il en soit, M. Caron s'est montré convaincu qu'il n'y aura pas de problème ce matin. Le porte-parole du Parti québécois en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Joël Arsenault, dépose un projet de loi pour contrer le gaspillage alimentaire et d'autres biens aujourd'hui. M. Arsenault rappelle qu'il y a un an, il a déposé un projet de loi similaire qui incluait aussi le droit à la réparation des biens. Le gouvernement a choisi de reprendre cette notion dans une loi sur l'obsolescence programmée, adoptée en octobre. Cependant, cette loi n'a pas ciblé le gaspillage, ce qui fait que le PQ revient à la charge. Celui-ci fait valoir que plusieurs juridictions dans le monde ont déjà agi pour contrer le gaspillage, autant alimentaire que pour d'autres biens. Le syndicat de l'enseignement de la région de la Métis dénonce les agissements du Centre de services scolaires des Monts et Marées envers son personnel enseignant en statut précaire. Le CSS a pris la décision de réaffecter du personnel enseignant sans lui demander son consentement ou avoir fait l'étude de ses capacités. Le syndicat a déposé un grief pour contester la décision de l'employeur de réaffecter du personnel enseignant dans des matières dont il ne détenait pas la capacité d'enseigner. En mars dernier, l'arbitre Alain Turcotte a rendu une décision favorable au syndicat. Malgré tout, le CSS a décidé de poursuivre sa démarche et pris la décision d'aller en appel. Et enfin, Investissement Québec accorde des aides financières de 1,5 million de dollars à deux entreprises de Rimouski, la ferblanterie de Rimouski et de Vaucéan, pour le projet d'agrandissement et de développement. La députée de Rimouski et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina, en a fait l'annonce hier. C'était Pierre Michaud pour vos informations. Nos nouvelles se trouvent sur cfxrimouski.com.
Réveil Rimouski vous parvient en direct du studio McDonald's du lundi au vendredi de 6h à 10h. CFIX FM 93.
Mise à jour. Procès Trump.
Mon Dieu. C'est une voix qui annonce que c'est important.
C'est salut toujours, Valérie. Voyons, mes chroniques sont toujours importantes.
Je sais, mais là,
c'est une couche supplémentaire.
On dit qu'il y a une grosse voix. Donc oui, le procès Trump, le cirque se poursuit, faut le dire. Hors jury, il y a eu des gros échanges entre le juge et l'avocat de M. Trump.
Oui, parce qu'on parlait de ce bâillon partiel, en anglais, un gag order. Ça veut dire que Donald Trump ne peut pas dire tout ce qu'il veut pendant ce procès-là, en personne, donc dans des déclarations journalistes, et aussi sur les réseaux sociaux, et je te dirais même surtout sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Il ne peut pas intimider des témoins potentiels, ce qui veut dire Michael Cohen, Stormy Daniels, et j'en passe. Il ne peut pas parler des membres de la famille du juge, du procureur. Il ne peut pas parler de la greffière. Il ne peut pas parler des membres du jury. Bref, il doit se tenir tranquille derrière son clavier, ce qu'il ne fait pas très souvent. Sinon, il peut y avoir des pénalités. Et c'est ça qui était débattu ce matin. Est-ce qu'il a violé cet ordre de la Cour? Est-ce qu'il y a outrage au tribunal? Si oui, il pourrait avoir à payer 10 000 $ en pénalité.
Ce serait très simple pour M. Trump de rien dire, mm-hmm. pour pas influencer le procès. Ce serait très simple pour son avocat de pas être... je lisais les comptes rendus des médias sociaux. Là. Il est vraiment en train de vraiment s'enfarger dans les mm-hmm. fleurs du tapis. On dirait qu'il veut gagner du temps. La lecture que tu fais de tout ça, là, c'est quoi la stratégie de Trump et son avocat?
Justement, gagner du temps, c'est la stratégie principale parce que dans tous leurs gestes, et là je te parle avant même le procès, on essaie de le retarder. Dans la semaine avant le procès, à 4 reprises, dans 4 instances différentes, on a donné des raisons différentes aussi pour retarder le procès. Ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'était juste dans la semaine avant. Il y en a eu dans les mois avant. Là, écoute, ça fait 1 an qu'on essaie d'empêcher l'ouverture de ce procès-là. Quand il y a eu la sélection des membres du jury, on rajoutait des questions supplémentaires complètement inutiles pour faire retarder le procès aussi. Alors, c'est ce que je vois encore comme stratégie. On donne des arguments bidons. À chaque fois que Trump va être sur le... On va l'accuser de violer cette ordonnance-là. Est-ce qu'on va se représenter devant le tribunal puis on va avoir un délai aussi pour présenter le témoin, que les témoignages se poursuivent? C'est possible. Et le juge semble pas trouver ça très, très drôle. La semaine passée, il disait à Trump de se contrôler dans ses soupirs, dans ses regards, dans ses gestes qu'il posait au tribunal lors de la sélection des membres du jury. Et là, il dit à l'avocat, mais finalement, faites donc votre travail parce que vous n'êtes pas très, très crédible aux yeux de la Cour. Puis plus vous parlez, plus vous vous calez. Hein, c'est un peu ça entre les lignes qui semblait dire à l'avocat Todd Blanche, si on le dit à la française, qui lui disait, mais écoutez, il n'était pas au courant. Il a mis des guillemets quand il parlait, par exemple, de Michael Cohen. Il a cité quelqu'un à la télé, donc il n'y avait pas d'intention de violer ce bâillon-là. Il a dit aussi, c'est la liberté d'expression. Il fait un discours politique.
J'irais même jusqu'à dire, Valérie, que M. Trump a l'air de se magasiner un séjour en prison parce que s'il est trouvé coupable d'outrage au tribunal, le juge peut l'envoyer en prison pour soit faire du financement, se poser en mm-hmm. victime, motiver ses troupes, mais c'est sûr qu'il y a une stratégie en arrière.
Imagine être en prison en disant « je ne faisais qu'exercer ma liberté d'expression ouais. ». Comment ça pourrait avoir un message auprès de ses partisans? On est juste à la semaine 1. Il y en a 6 à 8 semaines comme ça.
Sinon, il y a M. Pecker qui a oui. continué son témoignage. M. Pecker était l'ancien dirigeant d'un journal à Potin qui achetait des histoires scabreuses là pour les publier. Mais dans le cas de M. Trump, on les achetait pour pas les publier.
Oui, pour pas que ça soit publié nulle part. Parce qu'il y en a d'autres journaux où on aime ça avoir des histoires, le New York Post ou plein d'autres tabloïdes, comme on les appelle. Et lui, c'était le roi des tabloïdes. Alors, il était très connu. On lui parlait quand c'était au-dessus de 10 000 $ qu'on devait payer quelqu'un. Ça passait par lui. Si c'était ses amis, des gens dans son cercle rapproché, on devait lui demander la permission. On enquêtait sur les histoires et ce qu'il a dit, c'est qu'il avait une ligne directe avec Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump, qui est vraiment le témoin clé dans cette histoire-là parce que c'est lui qui a fait le fameux paiement de 130 000 $ à Stormy Daniels. Et ce que Pecker racontait aujourd'hui, c'est comment il avait la stratégie de catch and kill. Ça, c'est la stratégie justement de t'attraper l'histoire et de la tuer carrément qu'elle ne voit jamais le jour. Il le faisait pour le compte de Trump. Il publiait des histoires à la demande de Cohen Cohen, entre autres, sur les adversaires politiques de Donald Trump en 2016. Je lisais les unes de journaux de l'époque, là, Ted Cruz et ses 5 maîtresses. C'était vraiment des choses comme ça qu'on publiait. Et il disait que Trump, et ça c'est vraiment l'élément important pour moi, était au courant de tout. Parce que c'est ça qu'on doit prouver dans ce procès-là.
Selon lui, Trump était au courant de tout et il dit aussi, ce monsieur Pecker, Trump voulait que je fasse ça pour aider sa campagne présidentielle. Et ça, c'est au cœur des accusations.
Oui, parce qu'on dit que le paiement à Stormy Daniels pour ne pas qu'elle parle était un paiement électoral. Parce qu'on pouvait